Dimanche 7 janvier 1979, 13e leçon de catéchisme pour adultes par M. l'abbé Montarien en la chapelle polonaise rue Saint-Honoré à Paris.
Nous allons nous servir pour ce complément de la fête de l'épiphanie que nous célébrons aujourd'hui. Nous allons considérer les différents personnages, c'est-à-dire d'abord notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, ensuite les mages, ensuite le roi Hérode, et j'imagine que j'ai de la provision pour une demi-heure. Pas tellement avec notre Seigneur Jésus-Christ, bien qu'il soit de loin, infiniment, le personnage le plus important de tous. Mais comme je ne suis pas très théologien, je ne vous dirai que l'essentiel. Donc nous entrons dans cette maison où les mages trouvent l'enfant avec sa mère. On ne parle pas de Saint-Joseph. Il est silencieux, il s'active. Il y a là un petit enfant, dans son berceau. Ce petit enfant, comme je le disais tout à l'heure, est Dieu et homme. Il est Dieu de toute éternité et il est homme. Je vais essayer de, non pas d'éclairer le mystère, parce que ça n'est pas possible, mais je vais essayer de vous montrer où il est, ce qui est encore une façon de l'éclairer. Tout d'abord, c'est le Verbe éternel. J'ai dû vous en parler à propos de la Trinité, ou tout au moins aux enfants. Le Verbe, le mot est de Saint Jean, et il est parfaitement choisi. Un Verbe, c'est ce par quoi on s'exprime, une parole. Nous avons traduit en français le Verbum latin par Verbe, c'est la parole. Actuellement, je m'exprime. Non pas par une parole, parce que je suis un mauvais orateur, mais par un flot de paroles. Si je m'y prends bien, au bout de ce flot de paroles, vous aurez une petite idée de la mienne, je veux dire de mon idée. Quand Dieu s'exprime, il est Dieu, vous savez, il est infini, il s'exprime en un seul mot, en une seule parole. Et cette expression est une expression parfaite de ce qu'il est, de celui qu'il est. Si parfaite que le Verbe, son Verbe, lui est égal en tout. Le Père est éternel, le Verbe est éternel. Le Père est infini, le Verbe est infini. Le Père est tout-puissant, le Verbe est tout-puissant. Ce petit enfant que je vois dans la crèche, c'est le Verbe éternel. C'est aussi quelqu'un qui est né à une certaine date. À quelle date? En principe, en l'an zéro. Je dis en principe, mais la réalité est différente. Le personnage qui a calculé le premier, les années, depuis la naissance du Christ, s'est trompé. Ce personnage s'appelait Denis le Petit, Denis l'Exigu. C'était un moine du IVe siècle, je crois. Il s'est trompé dans son calcul, si bien que notre Seigneur Jésus-Christ, semble-t-il, est né en 4 ou 5 avant Jésus-Christ. Nous préférons dire, pour que ce soit moins ridicule, qu'il est né en 4 ou 5 avant notre ère. En effet, le roi Hérode, qui régnait au moment où le Messie est né, le roi Hérode mourut en l'an 4 avant Jésus-Christ. Il mourut très peu de temps après la naissance du Messie. Disons que Jésus est né en l'an 5 avant Jésus-Christ, peut-être 6. Il est donc né à une certaine date. Il est mort à une autre date. Là, on est presque plus précis, mais pas tout à fait précis quand même. En ce moment, après vous avoir parlé du Verbe éternel, je vous parle de Jésus homme. Jésus qu'on peut dater. Il semble qu'il soit né en avril 30. Autrement dit, il avait plus de 33 ans. Il avait autour de 35 ans. C'est plus facile à dater, mais je ne sais pas où la difficulté. Elle existe quand même, sans quoi je serais plus exact, plus précis, après mes livres, bien sûr, où je vais chercher toute cette science. Je ne les ai pas lus exprès, mais ce sont de vieux souvenirs qui me reviennent. La manière de calculer est celle-ci. Jésus est mort le jour de Pâques, et il est mort un vendredi. Il s'agit de savoir en quelle année le jour de Pâques, la Pâque juive, est tombé un vendredi, c'est-à-dire la pleine lune, la première pleine lune de printemps. Il semble qu'il n'y ait qu'une solution, c'est l'an 30. Le voilà donc daté. On pourrait même être plus précis, je ne le suis pas à cause de mon ignorance, mais nous savons exactement le quantième du mois d'avril, où il serait mort. où il est mort. Je prends des conditionnels, je ne devrais pas, dans le fond. Voilà. Ce petit enfant a donc grandi. Pour grandir, il a eu besoin du lait de sa mère et puis ensuite de la nourriture qu'elle lui préparait. Et Saint-Joseph travaillait pour acheter tout cela. On mettait de l'ordre dans la maison. L'enfant aidait sa mère, c'est un homme, n'est-ce pas? Et plus tard, il fit son apprentissage avec son père adoptif. Il a pris le métier de Joseph. Et puis, il commença son ministère public. Il avait une certaine manière de se comporter, une manière humaine de se comporter. Les évangélistes sont très rares sur les détails. Il semble que cela ne les intéresse pas. Je crois tout simplement deux choses. Premièrement, le plan très humain. Les évangélistes, en particulier ceux qui avaient connu Jésus, se suffisaient dans la pensée qu'ils l'avaient vu et qu'ils l'avaient dans la mémoire. Ils ne pensaient pas à nous, qui serions si heureux de savoir s'il était grand, s'il était brun, et tous ces détails qui, dans le fond, sont inutiles. Et Dieu le savait bien qu'ils sont inutiles. Dans sa providence, il a voulu que nous ne sachions rien de tout cela. Mais en lisant entre les lignes des évangiles, nous pouvons découvrir quelques petits détails. Je vous ai dit il y a un instant que Jésus avait une certaine démarche, une certaine manière de se présenter. C'est sûr, cela va de soi, mais quand on lit à travers le texte, c'est plus intéressant. On s'aperçoit par exemple qu'après la résurrection, Saint Jean, qui avait des yeux plus jeunes, plus perçants, aperçoit avec les autres, bien sûr, ce personnage sur le rivage et le reconnaît à son allure. Jésus avait une manière de regarder les gens qui était à lui. Une sorte de regard circulaire au moment où il s'apprêtait à dire quelque chose d'important. Ça se trouve dans Saint Marc, cela. Saint Marc nous présente très très souvent Jésus promenant sur la foule un regard circulaire avant de dire ce qu'il a à dire. C'est tout ce que nous savons. On peut faire des suppositions. Je suis au physique pour le moment. Tout à l'heure, j'irai voir dans son âme et je me perdrai un peu. Je vous préviens d'avance. On a supposé qu'il était roux. Tout simplement parce que David l'était. David, son ancêtre. On nous dit dans l'Ancien Testament que David était blond. Le mot veut dire, je crois, blond tirant sur le roux. C'est, paraît-il, chez les Juifs, chez les Hébreux, chez les Juifs ensuite, une marque de très très grande beauté. C'est rare. Il était peut-être roux, mais c'est comme vous voudrez. Alors voyons dans son âme. Je vous ai dit que je m'y perdrais, et c'est sûr que je vais m'y perdre. Notre Seigneur Jésus-Christ est là dans son berceau. Les mages le contemplent. Que connaît-il des mages, ce petit enfant ? Que sait-il d'eux? Et que sait-il en général? Voilà le grand mystère de l'incarnation. En tant que Dieu, il sait tout. Mais en tant qu'homme, il a beaucoup à apprendre. Comment saisir cela? Ce n'est pas possible. Nous pouvons nous reporter sur le plan de la volonté et nous aurons le même mystère. Nous buterons sur le même mystère. Par exemple, sur la croix. Sur la croix, Jésus a dit « mon Dieu, pourquoi m'avez-vous abandonné ?» Se sentait-il réellement abandonné ? Oui. Il se sentait complètement abandonné, en tant qu'homme. Mais en tant que Dieu, il jouissait de la vision béatifique. Il était infiniment heureux. Comprenez si vous pouvez, mais vous ne pouvez pas. Il y a donc en Jésus deux sciences. Une science totale, divine, infinie, et puis une science expérimentale. Il va lui falloir apprendre. Il va lui falloir apprendre à parler. Il va lui falloir apprendre, en tant qu'homme, à lire et à écrire. Il fréquentera la synagogue. On lui enseignera à lire et à écrire dans les textes saints. Et puis, encore une fois, il va apprendre le métier de son père adoptif. Il fut un temps où il commença de parler, comme tous les petits-enfants. Et puis, il fut un temps où il parla très bien. Disons tout de suite que l'humanité de Jésus, qui est une humanité véritable, est une humanité parfaite. C'est-à-dire imparfaite d'une certaine manière. Parce que l'homme est une créature imparfaite. Il est bien entendu que si Jésus était roux, il n'était pas brun. Il ne pouvait pas être tout à la fois. S'il mesurait 1m72, il ne mesurait pas 1m80, ni 1m65. Il faut choisir. Quand on est homme, on est limité. Il avait son caractère à lui. Un très bon caractère, d'ailleurs. Mais c'était son caractère à lui. Il avait sa manière de parler, il avait son accent, probablement. Il avait l'accent de Galilée, qui, autant que je puisse m'en rendre compte, d'après l'Écriture, n'était pas beau. Il avait l'accent de Galilée. Bref, c'était un homme, mais un homme parfait, et imparfait parce qu'homme, si vous voulez. Mais, pour ce qui est de l'intelligence, il est imbattable. Je parle de son intelligence humaine. Pour ce qui est de son talent littéraire, nous sommes habitués aux paraboles, vous savez. Je croyais ne rien avoir à dire sur Jésus, puisqu'il vient partir, là. Tant pis pour Hérode. Pour ce qui est de son talent littéraire, nous sommes habitués aux paraboles, mais elles sont magnifiques. L'Ancien Testament comporte de nombreuses paraboles. C'était un genre courant dans ce pays et dans tous ces temps, ces vieux temps. Jésus manie la parabole avec beaucoup de talent. Les paraboles de l'Évangile sont à 100 coudées au-dessus des autres. Mais encore une fois, nous sommes habitués. Alors nous ne le voyons plus. Nous les entendons depuis trop longtemps. Il savait se faire entendre. Jamais personne n'a parlé comme cet homme, disaient les foules. On était suspendu à ses lèvres. Bref, c'était un homme absolument parfait. Il ne pouvait pas pécher. Autrement dit, il était parfaitement libre. C'est encore un mystère, cela, mais un petit mystère. La liberté étant entravée, finalement, par cette possibilité désastreuse que nous avons de pécher. Les gens qui n'ont pas de défaut sont parfaitement libres. Il ne semble pas, puisqu'ils ne peuvent que choisir le bien. Mais vous savez par expérience, on pourra l'expliquer, que vos défauts vous entravent, vous gênent dans votre liberté. Donc c'est un homme, il est libre, il a une volonté. Il y a une vieille hérésie, qui s'appelle, si j'ai bonne mémoire, le monothélisme, qui prétendait, comme Jésus, il n'y avait que la volonté du Verbe. C'est séduisant comme présentation. Mais si notre Seigneur Jésus-Christ en tant qu'homme n'a pas de volonté, il n'est pas homme. Il avait donc une volonté humaine, qui d'ailleurs se trouvait toujours d'accord avec la volonté divine. Mais il a une volonté humaine. Il pense, il réfléchit, il décide. Il avait une sensibilité. Une très grande sensibilité. On m'a dit autrefois, je n'ai pas trop bien compris à l'époque, que Jésus a souffert plus que tout autre parce que sa sensibilité était plus parfaite. Si vous êtes très sensible, les peines qu'on vous fait sont plus grandes. Vous avez des gens qu'on ne peut pas vexer, à qui on ne peut pas faire de peine. Ce sont des bœufs. Hein? Ce sont des hommes, mais proches du bœuf. Tandis que notre Seigneur Jésus-Christ était terriblement sensible. Voyons-le dans l'Évangile. Puisqu'il était sensible, puisqu'il était homme, il avait ses préférences. Cela peut nous choquer, mais s'il n'avait pas ses préférences, s'il n'avait pas eu de préférence, il n'aurait pas été homme. Il préférait Saint-Pierre et Saint-Jean aux autres apôtres, ce qui ne veut pas dire qu'il n'aimait pas les autres. Et puis, parmi tous les personnages qu'il a fréquentés, il a préféré Lazare, Marthe et Marie. Il aimait mieux sa propre mère que la maman des autres. C'est un homme, donc. Je crois avoir dit tout ce que je pouvais dire. Les théologiens vous en diraient davantage, mais peut-être ne comprendriez-vous pas. En tout cas, ils n'en diraient pas beaucoup plus que ce que je vous en dis. Et à propos de la science humaine de Jésus, eh bien, aussi grande qu'elle était, disons-nous qu'elle était limitée, c'est encore à cause de son côté humain, n'est-ce pas ? Il est Dieu. Quand nous avons affaire à Jésus, je ne sais pas comment vous devrez vous y prendre, vous, parce que nous sommes tous très très différents. Allez à lui parce qu'il est homme. Mais n'oubliez pas, dans le même temps, qu'il est Dieu. Je crois que c'est automatique. L'incarnation, ça a été inventé par Dieu pour cela. Bon, voilà pour Jésus. Voyons maintenant les mages. Qui étaient-ils? Les mages n'étaient pas des rois. Déjà. C'est le Moyen-Âge qu'on a fait des rois. C'est très joli, d'ailleurs. Il s'est servi pour en faire des rois d'un passage de l'Ancien Testament, quand même, qui intervient sans cesse, d'ailleurs, dans la liturgie du jour de l'Épiphanie. C'est une prophétie d'Isaïe. Isaïe annonce les temps que nous vivons, c'est-à-dire les temps où tous les peuples sont appelés à entrer dans l'Église. Et il dit « Regestar si setin sule munera offerent, reges arabum et sabadona aducent. » Les rois de Tarsis et des îles viendront apporter leur présent. Les rois d'Arabie et de je ne sais plus où, apporteront l'or, l'encens et la myrrhe, etc. Alors on s'est dit, la prophétie s'est trouvée exactement réalisée au moment où les mages vinrent. Ce sont donc des rois. En réalité, ce n'étaient pas des rois. Étaient-ils trois déjà? L'Évangile ne nous le dit pas. L'Évangile dit des mages, ce qui veut dire qu'ils étaient au moins deux. Mais peut-être étaient-ils 8 ou 10? Non, je crois qu'ils étaient 3. 3, c'est un beau chiffre. Nous avons décidé qu'ils étaient 3 parce qu'il y a 3 présents. L'or, l'encens et la myrrhe. Alors nous représentons chaque mage portant son petit paquet. Ils étaient autant que vous voudrez. 2 au moins. C'était des astronomes et pas des astrologues. Parce qu'un astrologue, c'est un homme superstitieux. Et il me choque de penser que notre Seigneur Jésus-Christ ait été annoncé à des hommes superstitieux. Ils étaient probablement Perses, le pays du chat, le chat d'Iran, n'est-ce pas? À cette époque, la région était tranquille. La religion des Perses était assez pure, c'était une religion idolâtrique quand même, mais assez pure. On y adorait la lumière. Et il y avait toute une catégorie de savants dans ce pays qu'on appelait des mages, qui étaient des j'hésite toujours parce que j'ai tendance à me tromper, des astronomes, mais des astronomes aux petits pieds, ils n'en savaient pas très très long. Ils ne connaissaient du ciel que ce que le ciel en dit quand on n'a pas de lunettes, je veux dire de lunettes astronomiques. Alors ils connaissaient tous les astres. Et puis un beau jour, ils en virent un qu'ils ne connaissaient pas. Habitaient-ils le même endroit? Nous n'en savons rien. Se sont-ils rencontrés à Jérusalem ou en route? C'est comme vous voudrez. Mais ce qu'il faut que vous voyez, c'est que, premièrement, il y a ce que leurs yeux voient. Deuxièmement, il y a ce qu'ils savent de l'attente des Juifs. Et troisièmement, il y a quelque chose qui se passe dans leur cœur et qui est le plus important. Pour comprendre ce que je vais vous dire, interrogez votre propre foi. Votre propre foi, elle s'appuie sur des éléments visibles, audibles, etc. Mais c'est à l'intérieur que ça se passe, c'est une lumière surnaturelle. Ils virent l'étoile et la mirent en rapport avec le Messie des Juifs. C'était d'une certaine manière facile, parce que l'attente des Juifs était connue de tout le monde antique. À Rome, en Perse, partout, on savait que les Juifs attendaient un Messie, un roi terrible. Et beaucoup de ces païens s'y intéressaient. Donc les mages firent un rapport entre cette étoile qu'ils ne connaissaient pas et le Messie des Juifs. Ils se mirent en route, c'est là qu'intervient la lumière intérieure. C'est difficile de se mettre en route, de faire un grand voyage en un temps où les avions et les trains n'existaient pas. Ils se mirent en route pour aller rendre hommage à ce roi des Juifs. Et à ce propos, je voudrais vous dire une chose que j'oublie de vous dire à chaque fois que je vous vois comme ça le dimanche soir. Je vous ai parlé pendant tout le mois de décembre des prophètes, de l'attente du Messie. J'oublie toujours de vous dire cette chose très essentielle, qu'au moment où le Messie est venu, l'attente messianique était arrivée à son comble. Je veux dire en Palestine. On savait le Messie imminent. Il y avait des faux messies qui se présentaient partout et qui fomentaient des révoltes. On n'attendait plus que le Messie. On avait fait des calculs, on avait lu Daniel, on savait qu'il venait, c'était le moment, etc. Il est assez curieux d'ailleurs de voir que le Messie venant, dans cette effervescence, ne fut pas reçu. On l'attendait sous une autre forme. Donc les voilà qui se mettent en route. L'étoile apparemment a disparu. Lisez votre texte. L'étoile a disparu. Ils vont à Jérusalem parce que Jérusalem est la capitale du peuple juif. Autrement dit, après cette lumière surnaturelle, il y a la lumière naturelle. Essayez de les prendre en exemple, ces mages. Dieu nous éclaire, mais il n'éclaire pas les fainéants. Il faut que nous fassions notre possible en tout. Je vois quelque chose, je me mets en marche. Alors ils marchent jusqu'à Jérusalem. À Jérusalem, eh bien, ils font une petite enquête. Ils la font, cette enquête. Ce qui permet aux représentants officiels de la nation juive d'être prévenus de la naissance du Messie. Et de se moquer royalement, d'ailleurs. Royalement, c'est le mot. Étant donné la circonstance. Et aussitôt qu'ils ont ce renseignement, le prophète Michée, etc., ils sortent, et voici que l'étoile leur apparaît de nouveau. Parce que maintenant, ils ont besoin d'elle. Ils ont encore assez de lumière pour aller jusqu'à Bethléem, mais Bethléem, c'est tout de même important. Ce roi n'a pas fait grand tapage en naissant, apparemment. Alors, ils ont besoin de l'étoile. L'étoile les conduit là. Et ils offrent ces trois présents qui, de toute façon, sont fort curieux. Qu'ils donnent de l'or, ça ne devait pas être une fortune terrible. On le comprend, surtout quand on considère la pauvreté de la Sainte Famille. Cet or, d'ailleurs, leur sera fort utile à ces trois pauvres. Parce que dans quelques jours, ils vont partir pour l'Égypte, à un long voyage pour des pauvres, dans un pays où il y a des amis. Il y avait des juifs partout, comme il y a des juifs partout en ce moment, mais où tout de même, il faut s'installer. De l'encens. L'encens, c'est ce qu'on offre à Dieu. La foi des mages est une foi surnaturelle, certainement. Ce n'est pas simplement la joie de ceux qui ont découvert le Messie que les juifs attendaient. Certainement, ils croient que cet enfant est Dieu. Et puis la myrrhe qu'on utilisait pour les sépultures. Tout cela est bien mystérieux. Il nous reste quelques minutes pour parler d'Hérode. Hérode, nous le connaissons bien par l'historien juif Flavius Joseph, qui était un collaborateur. C'était un ami des Romains, il cherchait à se faire bien voir, mais il est précieux parce qu'il a écrit un certain nombre de choses qui nous renseignent sur l'époque, sur l'époque où notre Seigneur est né. Qui nous renseigne sur Hérode, par exemple, qui nous renseigne sur la guerre juive, cette guerre qui verra sombrer Jérusalem. Alors nous connaissons Hérode. Hérode régnait depuis 40 ans quand Jésus vint au monde. Hérode était l'homme des Romains. Il portait le titre de roi, mais tout simplement parce que les Romains savaient gouverner, un peu comme les Anglais dans leur dominion, qui laissaient quelquefois au peuple l'illusion de l'indépendance pour les mieux écraser. Je ne voulais pas dire du mal des Anglais, ça m'est sorti. Donc, il était roi, mais il ne l'était pas en réalité. Il est connu dans l'histoire sous le nom d'Hérode le Grand. Il fut grand sous certains aspects. Ce fut un roi bâtisseur. Il reconstruisit le temple, je vais vous dire comment tout à l'heure. Il construisit à quelques distances de Jérusalem, plus au sud, la forteresse de l'Hérodion. Et puis, près de la mer Rouge, cette forteresse palais de Massada, qui a laissé des traces assez extraordinaires, en plein désert, à un endroit où on vivait comme des sybarites, avec des piscines partout, etc. C'était une installation extraordinaire. Il a reconstruit le temple. Il n'était pas juif, Hérode. Hérode était iduméen, c'est-à-dire qu'il appartenait à cette tribu qui vivait au sud de la Palestine, dans cette région semi-désertique. Il était iduméen, mais avait été choisi pour roi parce qu'il avait épousé une asmonéenne, une descendante des Maccabées, qui revivait en elle. Et il avait été choisi par les Romains pour ça et surtout pour son caractère servile. Pour contenter les Juifs, eh bien, il faisait le religieux, l'homme religieux. Il décida de reconstruire le temple, mais les Juifs se méfiaient de lui. Ils lui dirent, mais ça n'est pas possible, tu ne peux pas reconstruire ce temple. Seuls les prêtres ont le droit de pénétrer dans le sanctuaire. Et puis d'autre part, nous te connaissons, tu vas détruire l'ancien, sous prétexte de reconstruire le nouveau, et puis quand ce sera fait, tu ne reconstruiras pas le nouveau. Alors Hérode, un peu impatienté, décida qu'on détruirait l'ancien temple tranche par tranche et qu'on le reconstruirait tranche par tranche. On arrive au sanctuaire. Il y a toujours ce problème des prêtres, n'est-ce pas? Toujours ces hommes, ces juifs étaient sur le point de s'échauffer, c'était très ennuyeux parce que le pouvoir romain, Auguste, veillait de loin, n'est-ce pas? Alors Hérode, qui avait des moments d'énergie, trop même quelquefois, réquisitionna un certain nombre de prêtres, les obligea à apprendre le métier de maçon et leur fit construire le sanctuaire. C'était réglé. Je vous ai déjà dit qu'Hérode était un demi-fou au milieu de ses grandeurs. Il avait la folie de la persécution. Il fit périr bon nombre de membres de sa famille. Je voudrais un jour avoir la curiosité d'aller voir combien. J'ai oublié, mais ça doit se placer entre 30 et 100, sinon plus. Toujours pour le même motif. Quand je dis membre de sa famille, c'était ses fils, c'était sa femme. D'autres, bien sûr, parce qu'on n'a pas 50 fils, mais ses fils y passaient. Alors, vous comprendrez mieux maintenant sa réaction au moment où les mages arrivent à Jérusalem, vont chez lui, parce qu'il est le mieux placé pour leur donner des renseignements, et lui disent, dans leur simplicité, « Où est-il ce roi des Juifs qui vient de naître ? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus lui rendre hommage. » Quand il tuait ses fils ou sa femme ou d'autres, c'était toujours parce qu'il se figurait qu'on complotait contre son règne, contre son pouvoir. Voilà Hérode. Hérode mourut de je ne sais plus quelle maladie, un peu après la naissance du Christ. Il se décomposait tout vivant. Il sentait très mauvais. Et à sa place régnèrent ses fils, les survivants. Il y en avait quelques-uns quand même. Mais le pouvoir central, Auguste, ne leur laissa pas le titre de roi. Il leur donna le titre de tétrarque. Ils se partagèrent les terres d'Hérode avec le titre de tétrarque. Il y avait un nommé Archélaus, il y avait un autre Hérode, et puis il y avait un type qui s'appelait Philippe. L'autre Hérode nous est connu aussi. C'est l'Hérode de Saint Jean-Baptiste, celui qui fera périr Saint Jean-Baptiste. Le premier, c'est Hérode le Grand. Le deuxième, on l'appelle Hérode Antipas. Il était un peu moins sauvage que son père et que son frère Archélaus, mais guère moins. Vous le savez d'ailleurs, puisque vous connaissez l'histoire. Voilà, je vous ai présenté tous ces personnages. J'ai fait comme la Sainte Écriture. Je n'ai pas parlé de Joseph, mais il ne quittait pas ma pensée. Ça, c'était un brave homme, Saint Joseph. Comparé, par exemple, à Hérode, c'est un abîme. Mais il était de la même race que les mages. C'était des gens simples, tous ces gens-là. Des gens qui n'allaient pas chercher midi à 14h et qui ne coupaient pas les cheveux en quatre. Ne parlons plus de la Sainte Vierge, puisque nous avons tout dit sur elle il y a 3 semaines.